Bon, je vous propose qu'on commence. Je vais faire les présentations. De toute façon, comme peut-être vous connaissez déjà les
Ceux qui sont au moins dans l'amphithéâtre, si vous pouviez juste vous asseoir, qu'on puisse commencer. Les retardataires vont nous rejoindre petit à petit. Nous écoutions hier le père Lombardi. Eh bien, dans la salle de presse, il y a aussi des journalistes que nous allons écouter maintenant.
Quels sont les ressorts de la communication du pape François? Ça va être un peu le leitmotiv et le guide de cette table ronde avec Robilda Ferrotto. Merci d'être là. Vous avez passé l'essentiel de votre vie professionnelle à Radio Vatican de 1982 à 2016. Et donc aux premières loges de tout un tas d'événements sur ces années-là, de Jean-Paul II à Benoît XVI, et bien sûr jusqu'au pape François. On peut souligner que pendant les quatre derniers synodes, vous avez eu un rôle particulier qui était de faire les points presse en français pour le compte de la salle de presse du Saint-Siège. Vous êtes retraité depuis le 1er août, mais ce n'est pas pour autant que vous avez cessé vos activités. Vous êtes cofondatrice de la première association de femmes au Vatican, dont vous êtes la vice-présidente. Durant ces années à la rédaction française Radio Vatican, vous avez vu passer des journalistes, dont le jeune Antoine Marie. C'était une bonne chef. De 1900, c'était pour mesurer ta liberté de parole, en fait. De 1996 à 2002, pendant 7 ans. Après une petite pause à Bordeaux comme directeur de la communication du diocèse, de 2005 à 2016, tu as été directeur de l'agence Immédia pendant 11 ans. Combien de dépêches ?
13 566 dépêches.
Et une quarantaine de voyages pontificaux. Et pendant 5 ans, tu as travaillé avec Jean-Louis de la Vessière. Jean-Louis, merci d'être là. Pendant 5 ans, correspondant de l'AFP au Vatican, de 2011 à 2016, L'AFP, c'est un peu ta deuxième maison, de 1977 jusqu'à nos jours, dans différents bureaux, à Rome, Téhéran, en Allemagne, à Genève, et puis désormais dans l'ouest de la France. Il y a trois livres que tu as signés, Jean-Louis, je les signale notamment le titre « François dans la tempête » chez Salvatore, c'est le dernier, de Benoît à François, une révolution tranquille en 2013, et le pape François, un combat pour la joie en 2015. Je donne la parole à Antoine-Marie, peut-être pour commencer parce que le père Lombardi a bien introduit d'une certaine manière la communication du pape François hier avec la spontanéité qu'on lui connaît, et on sait qu'il a souligné combien Dieu parlait à travers les surprises. Les journalistes l'ont appris parfois un peu à leurs dépens. Et puis la spontanéité, au fond, qu'est-ce qu'on peut retenir, ou qu'est-ce que tu as retenu de la communication et l'expression du pape François?
Alors je vais revenir, merci. Comme ça, au moins, vous êtes à l'aise. Merci, Christophe. Alors, oui, moi, à la demande d'Étienne, je commence parce que je suis peut-être un peu le rigolo de la bande et que je vais... Enfin, le rigolo, je ne dis pas que ça vous fera rire, mais j'espère, en tout cas, parfois. Mais parce que l'idée, c'est plutôt de vous narrer quelques anecdotes de ce vécu de 3 ans et demi de François, comme journaliste vaticaniste, dans les voyages pontificaux en particulier, qui est quand même le gros de ce travail, mais en tout cas le plus épuisant, mais évidemment au quotidien, pour l'écriture des dépêches à Immédia. Je commence par une brève introduction, mais plus personnelle, si vous permettez, en revenant sur ce que le père Lombardi a dit hier soir sur le pape François, le pape des gestes, et donc on va se poser la question de comment est appliquée la communication du Saint-Siège ou du Vatican, et puis le rapport avec les journalistes en face de ces gestes assez étonnants du pape François. Mais je voulais juste dire en introduction que ceux qui me connaissent savent que j'ai coutume de dire, déjà en rédaction à Famille Chrétienne ces derniers temps, que Jean-Paul II m'a fait grandir. J'avais 6 ans en 78, je vous laisse faire le calcul, et que Jean-Paul II m'a encouragé à prendre ma place dans la vie de l'Église avec son « n'ayez pas peur », donc d'une certaine façon il m'a logé dans la maison Église. Benoît XVI, le père Lombardi l'a très bien dit hier, et c'est effectivement très vrai, on le sait tous, nous a fait grandir dans le mystère de la foi et de la vie chrétienne. Il nous a nourris, nourris cette foi et nourris la vie chrétienne. Vous avez compris, logé par Jean-Paul II, nourri par Benoît. Vous me voyez venir. J'ai été un peu blanchi, lessivé, bousculé par François, et je crois que c'est très vrai. François, il nous, avec ses gestes inédits, avec ses phrases inédites, sa vigueur pastorale, il nous lessive un peu, et c'est plutôt pas mal. Donc nourri, logé, blanchi par trois papes. Je commence par le premier geste, c'est le 13 mars 2013, et vous l'avez tous en mémoire, de ce pape passer l'effroi. Alors là, je parle que de moi, évidemment, personnel, de voir arriver cet homme, les bras ballants, qui se demande à peu près où il est arrivé, bien qu'il ait été probablement un peu préparé, mais qui voit la place Saint-Pierre pleine de monde, un petit crachin, et qui se demande un peu où il est, qui a l'air un peu surpris, apeuré peut-être, mais pas complètement. Et alors peut-être parce que j'avais vu Habemus Papam quelques jours plus tôt, étonnamment. J'avais vraiment l'impression de revivre Habemus Papam, le début du film, c'était très, très impressionnant. Et puis cet effroi, très très rapide, hein, quelques secondes à peine, même pas, a laissé la place à un geste fabuleux et qui marque évidemment, vous le savez mieux que moi, tout le pontificat, c'est ce pape qui s'incline et qui s'incline devant la place Saint-Pierre, le peuple de Dieu, et qui dit... stop, qui même arrête son ça sera le début d'une collaboration d'ailleurs assez étonnante avec son cérémoniaire, et qu'il arrête parce qu'il allait lui mettre l'étole rouge sur les épaules pour la bénédiction. Il l'arrête, il y a ce geste, et il dit, avant de vous donner la bénédiction, je veux que vous priez pour moi, que le peuple de Dieu prie sur moi. Et ça c'est vrai que c'est très impressionnant. Voilà, c'est pas une nouveauté, loin de là, mais je pense que c'était important de le redire, de le resituer dans le début des surprises de François. Je vous rappelle très rapidement, une semaine plus tard, on apprend que le pape reste à Sainte-Marthe, qui ne veut pas monter dans les appartements pontificaux. Cette semaine-là aussi, il célèbre sa première messe matinale, et on nous apprend qu'il va faire ça à peu près tous les matins, enfin on le découvre jour après jour, avec des employés du Vatican, et de mémoire, ce matin-là de mars, c'était des éboueurs, c'était des gens qui s'occupaient du nettoyage au Vatican. Donc ça en dit long. Et puis une semaine plus tard, on est déjà à la semaine sainte, à Pâques, et à la surprise générale, il va dans une prison pour mineurs et il va laver les pieds de 12 jeunes garçons et filles en prison, dont une jeune musulmane. Et puis, c'est la création du C8 qui va devenir le C9. Et puis, l'emballement médiatique. Qui nous prend très très rapidement, donc autour de la personnalité du pape François. Il faut dire que cet emballement médiatique, il était aussi lié au fait qu'on était enfin sorti d'une certaine façon avec François du pontificat difficile de Benoît XVI sur Vatilix. Voilà, hein, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait cet enthousiasme en tout cas de se dire Vatilix, c'est fini, c'est raté. Mais voilà. Alors je voudrais prendre deux exemples tout bêtes, deux passages, un que vous connaissez bien, un l'autre peut-être moins, qui nous disent quelque chose de ce pape des gestes. C'est le pape qui, lors d'une de ses premières audiences générales, place Saint-Pierre, vous souvenez qu'il prenait beaucoup de temps avec les fidèles, et puis qui, tout d'un coup, se voit tendre par un fidèle une calotte blanche, et qui attrape la calotte blanche, qui prend la sienne, et qui échange... et qui pose la calotte blanche sur sa tête, et voilà. Et alors là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un de mes collègues d'une grande agence italienne, la plus grande, qui publie une brève et qui explique, même un urgent, accompagné d'une photo, et qui dit, pour la première fois quasiment, enfin je sais très bien comment il explique ça, mais un pape échange sa calotte avec un fidèle. Bon. Alors cette histoire de petite calotte blanche... Elle nous dit quelque chose d'intéressant. Or, l'anecdote, c'est que des calottes, on en vendait dans les Borgos, dans le Borgo Pio près du Vatican depuis des années et des années, et qu'il y avait une tradition qui était que les fidèles pouvaient acheter une calotte blanche, mettre leur carte de visite avec un trombone élégant et la déposer, la donner au secrétaire du pape. Ça s'est fait, moi j'ai vu plein de fois avec Benoît XVI à l'audience, très discrètement, mettait ça sur un plateau, et puis le secrétaire plus tard renvoyait par la poste avec un petit mot du pape, la calotte qui aurait été portée quelques instants par le pape. Enfin, on avait une relique de troisième catégorie, on pouvait mettre ça dans son salon, c'était très élégant. Et là, ce qui était quand même assez marrant, c'est que le journaliste, tout d'un coup, voyait un nouveau geste, parce que le geste du pape, c'était d'échanger la calotte. Alors, pour la petite histoire, depuis, comme il s'est aperçu que la calotte était souvent trop grande qu'on lui donnait, eh bien, il fait le geste que vous avez dû voir une fois ou l'autre à la télévision, c'est qu'il attrape celle qu'on lui donne, il enlève la sienne, il frotte quelques secondes la calotte et il la rend aux fidèles. C'est assez terrible. Et bon, mais malgré tout, c'est un beau geste, on repart avec quelque chose, avec un beau souvenir du pape François. Pardon pour le c'est assez terrible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu un emballement médiatique. Je vous jure que dans les semaines qui ont suivi, on n'a jamais autant vendu de petites calottes blanches dans le Borgo Pio. Et des magasins me l'ont confirmé des mois et des mois après. Donc un emballement médiatique autour d'un fait, en fin de compte, complètement anodin. Et ça nous dit beaucoup aussi de la personnalité du pape François, de ce que ça peut entraîner dans les médias. Après, il y a un autre exemple, alors là, qui est bien connu, et c'est un événement, un moment qu'on a partagé en particulier avec Jean-Louis, qui est ici. C'est le premier vol papal à Rio de Janeiro. On part en juillet, souvenez-vous, c'était donc à Rio, au Brésil, pour les JMJ. Et d'ailleurs, c'est le résultat, enfin, c'est la raison pour laquelle, en particulier, Benoît XVI l'a déjà dit très clairement dans le dernier ouvrage, pour laquelle il n'a pas continué. Et il a présenté sa démission, c'est qu'il ne se sentait pas le courage et la possibilité physique de se rendre à Rio auprès des jeunes, et que l'hologramme n'étant pas encore très à la mode à l'époque, il ne pensait pas pouvoir être présent à Rio. Et donc, nous, on était habitués à cette rencontre avec le pape, ça avait été le cas aussi avec Jean-Paul II au début du voyage, où le pape vient dans l'avion et puis répond à des questions. Alors avec Benoît XVI, c'était assez encadré, sauf une fois de mémoire. Le père Lombardi serait là, il s'en souviendrait particulièrement. Cette fois-là, il ne l'a pas refaite. Et donc les autres fois, on nous demandait de préparer les questions, les envoyer un peu avant. Et le père Lombardi, avec une grande honnêteté, préparait des questions qui étaient soumises au pape, enfin même pas soumises, qui étaient montrées au pape pour qu'il soit un peu prêt. Voilà. Et alors non, on nous dit non, c'est pas la peine. Si vous avez des questions pour le pape François, vous pourrez toujours les poser. Et puis, surprise, le pape arrive et il nous dit, vous savez, je suis un peu comme Daniel dans la fosse aux lions. Moi, les journalistes, c'est pas mon truc. Et il nous dit cette phrase qu'il faut entendre aujourd'hui, mais je vous jure que l'entendre 3 ans et demi après, ça vaut son pesant d'or. Je ne donne jamais d'interview. Je trouve cela pénible. Je laisse ça à votre réflexion. Et alors nous, on passe le vol. Je vous raconte pas le vol. Vous souvenez des JMJ à Rio, les crocodiles qui ont empêché de faire la soirée, la veillée des jeunes, je sais plus où. Il a fallu se rabattre sur Copacabana, plus ou moins sous la pluie au début, puis après sous le soleil. La foule et compagnie, le pape dans sa papa mobile, la voiture complètement trimballée par les jeunes. Enfin voilà, sans aucune sécurité. Puis on revient complètement lessivé, là, réellement, au sens propre comme au figuré de ce voyage. Et on se dit, c'est bon, de toute façon, la fosse au lion, il ne va pas revenir, on est tranquille, on va faire dodo, il y a pas mal d'heures de décalage, on est épuisé, demain matin, on est à la maison. Et le pape arrive, et là, à notre grande surprise, il nous dit, je vais répondre à vos questions. Et là, il a passé avec nous 1h20. Il a répondu à 22 questions. La dernière, on s'en souvient pas mal, c'est le fameux « qui suis-je pour juger ?» Je tronque volontairement la phrase, mais on sait que voilà, et ça a terminé par une petite phrase du père Lombardi qui a dit il me semble que l'on ne pouvait pas faire plus. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'1h20, effectivement, le père Lombardi était rassasié comme nous, mais c'est pour dire que ça, c'était encore une surprise, et vous avez bien vu que c'était très malin de la part du Saint-Père, du pape François, c'est un choix là, de faire ses interviews, ses rencontres avec la presse à la fin du voyage plutôt qu'au tout début, pour éviter de faire capoter médiatiquement au moins le voyage. On a quelques souvenirs particuliers durant le pontificat du pape Benoît XVI, et pas totalement de son fait d'ailleurs. Pour parler encore juste rapidement du pape des gestes et de ce qui a surpris très vite dans le pontificat, ce sont ces prières que le pape faisait place Saint-Pierre quand il arrive à l'audience. Il dit, vous savez, j'arrive de Sainte-Marthe et puis là, il y a une employée qui est décédée, je vous demande de prier avec moi pour elle. Et hop, le pape s'arrête et commence à réciter un « Je vous salue Marie ». Il y a un séisme dans un coin d'Italie, pareil, il s'arrête, il dit « On va prier pour les populations ». Il s'arrête et il prie. À l'Angélus, il dit « Il faut qu'on prie pour le peuple du Congo ». Mais il ne s'arrête pas à l'appel de la prière. Il s'arrête, pof, et dit « Allez, on démarre une prière ensemble ». Et vous avez 40 000, 50 000 personnes qui prient. Donc le pape a séduit les journalistes, c'est un fait. Moi, j'ai assisté assez effaré, un peu, en tout cas au début, puis après on finit par être assez content quand même du phénomène, au fait que les journalistes applaudissaient le pape quand il arrivait dans l'avion. Je n'ai pas souvenir d'avoir vécu ça avec Benoît XVI. On lui confie des petits cadeaux, des intentions de prière, enfin voilà. Je l'ai fait, hein, donc je ne peux pas... Voilà, c'est un pape qui aime les médias et il lui rend, et il le lui rend bien. J'ai souvenir quand même que de quelques phrases en conférence de presse que le pape François a prononcées et que je ne crois on n'aurait jamais accepté dans la bouche de l'un ou l'autre, enfin en particulier de son prédécesseur. Mais voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut vraiment le regretter? Je ne crois pas. En tout cas, pas pour ce pontificat-là. Quelques mots sur les problématiques autour du statut de la parole du pape. La question de l'interview dans l'avion, on l'a dit. Moi, j'ai un haut prélat qui m'a un jour dit, il n'y a pas si longtemps que ça, avant de quitter le Vatican, mais est-ce que vous trouvez que c'est vraiment bien raisonnable que le pape fasse des longues interviews comme ça? Je lui dis, écoutez, je suis un peu mesuré, il faudrait peut-être que ce soit mieux préparé, mieux encadré. Et il me répond, mais dites-lui. Je ne sais pas, moi, de le dire au pape. Je lui dis, mais dites-lui, vous êtes l'un de ses plus proches collaborateurs. Et il me dit, non, moi, si je lui dis, il ne m'écoutera pas. Bon, voilà. Donc, c'est comme ça, ça marche comme ça au Vatican. Il y a les homilies à Sainte-Marthe, dont on a parlé, dont on sait qu'au début, nous, on les suivait toutes à la loupe. Et puis, au final, on a fini par abandonner, puisqu'il y avait des répétitions aussi, puis parce que c'est épuisant. Les discours improvisés à huis clos. Je pense à ce discours du pape l'an passé aux religieuses, aux supérieures générales. Qui a fait tant de bruit sur la question du diaconat féminin. Et en fin de compte, ce qui est assez étonnant, c'est que ça devait rester à huis clos. Il y avait un discours qui avait été préparé qui n'a pas été lu. Et puis, on a vu arriver sur les réseaux sociaux, très rapidement, quelques phrases dites par le pape, ou prétendument dites par le pape. On a commencé à s'inquiéter, on a demandé aux responsables de la salle de presse du Saint-Siège d'où venaient ces phrases, et puis on ne savait pas très bien, et puis ils ne savaient peut-être pas plus que nous, enfin ils avaient certainement le son, eux, de ce qui se passait. Et puis, en fin de compte, c'est quelques collègues journalistes qui s'étaient enfilés au milieu des 4-5 000 religieuses, et plusieurs heures plus tard, on a eu la totalité du discours du pape, et qui valait le détour. Voilà, et puis il y a les coups de fil, les lettres du pape, et qui sont, le père Lombardi l'a dit très clairement hier, parfois difficiles à gérer, mais tout ça avec un flegme certain. Et voilà. Quelques mots encore pour dire, et je pense que je vais terminer, pardon, que l'évolution des médias au Vatican, leur lenteur forme, on le voit en ce moment, n'est évidemment pas due qu'au pape François, hein, cette évolution des médias, et Twitter, Instagram, Facebook ont pris aussi plus d'importance, il faut le dire, ces dernières années, en même temps que le développement du pontificat du pape François. Mais évidemment, le pape n'est pas dupe, il sait que ça fonctionne. Et je pense en particulier à l'épisode de la sacoche en montant dans l'avion à Rio de Janeiro, où le pape était monté avec sa sacoche, et dont on dit, alors est-ce que c'est de mauvaise langue, j'en sais rien, j'étais pas à l'avant de l'avion, qu'il l'a après remise à son majordome et qu'il l'a quasiment plus touché du voyage. Mais il a fallu après que l'un ou l'autre d'entre nous, qui était peut-être plus proche du pape, lui pose une question pour savoir ce qu'il y avait dans la sacoche. Donc on a reparlé de la sacoche une semaine après. Donc c'était un pape normal. Un François normal, comme on aime. Et donc, c'est vrai que bah voilà, c'était sympa. Voilà. Donc, et puis, j'ai en mémoire, comme vous, ces images très fortes au début du pontificat qui ont marqué les esprits, du pape prenant à bras-le-corps un jeune paralysé, ou encore touchant le visage d'un homme à la figure ravagée. Et puis, une fois de plus, il sait ce qu'il fait. Je me souviens, il y a quelques mois à peine, d'une audience où le pape parle, il y a 2 ans peut-être maintenant, parlait des personnes âgées et de l'importance de la vocation de la vieillesse. Vieillir, c'est une vocation. Et j'ai souvenir qu'avant, quand il fait son fameux tour en papa mobile, qui dure beaucoup plus longtemps que la catéchèse maintenant, parce que c'est ce qui est important pour lui, ce contact avec les fidèles aussi, et ils sont venus de loin pour voir le pape. Et il est descendu de la papa mobile une fois, sur ce tour-là, ce jour-là, pour embrasser la plus édentée et la plus âgée des personnes de la place Saint-Pierre, au milieu des 40 000 ou 50 000 personnes. Et il y a eu, je crois, Claude de Siri qui était là tout à l'heure, c'est du pain béni pour les photographes. C'est-à-dire que le pape va parler une heure après des vieillards, et une heure avant, il fait la photo du jour, quoi. Donc c'est super. Il n'y a même pas la peine d'aller chercher dans les moteurs de recherche des agences. Voilà. Je m'arrête là, pardon, et pour dire que ben, on est tout est faisable avec le pape François, même des goodies complètement étonnants, et je voulais vous sortir ça, si vous ne connaissez pas. Et je ne suis pas sûr qu'on ait fait ça avec d'autres papes, mais bon, voilà, c'est l'évolution le monde évolue comme ça. Voilà, merci.
Merci Antoine-Marie. En même temps, pour les personnes, les personnes âgées, les malades, c'est une véritable rencontre, et le pape sait se montrer disponible, c'est d'ailleurs la réalité, c'est la raison pour laquelle l'image fonctionne, c'est qu'on voit bien qu'il y a une véritable cohérence.
C'est complètement, on est tout à fait d'accord, c'est complètement cohérent avec le discours. Non,
on voit bien le succès et cette efficacité de la transmission de ces messages par l'image. Du coup, Romilda, est-ce que c'est une bonne nouvelle, ce succès médiatique? Peut-être que tu souhaiteras revenir également sur le processus de réforme des médias en cours qui concerne la communication du Vatican et du Saint-Siège surtout.
Alors, je ne sais pas si ça marche, vous m'entendez ? Alors après le rigolo qui nous a fait rire, moi j'ai le rôle le plus ingrat puisque Étienne m'a demandé de parler des opposants, enfin des personnes qui n'aiment pas cette médiatisation du pape François, qui n'aiment pas son style. Et effectivement, ils existent. Alors quand il m'en a parlé, j'étais tellement embarrassée par cette question délicate, voire explosive, que j'ai écrit un texte. Je suis remontée dans ma chambre tout à l'heure, donc je n'ai pas suivi le débat sur l'islam, malheureusement. Et pour écrire un texte, parce que pour quelqu'un qui a travaillé pendant 35 ans au Vatican, dire que des gens n'aiment pas le pape, c'est un peu contre nature. Mais je vais quand même le faire, puisque je suis disciplinée, et qu'effectivement, c'est une vraie question, hein, il faut l'admettre. Mais je vais, si vous le permettez, à peu près lire mon texte. Bon, je vais essayer aussi de vous regarder de temps en temps, mais je vais lire mon texte. Alors, je voudrais déjà répercuter ce qui se dit au Vatican, en restant quand même dans le cadre de la communication, justement, qui est le thème de cette table ronde et de cette rencontre, en abordant la question sous cet angle-là. Je veux dire que je vais essayer de répercuter ce que disent les détracteurs du pape François, ceux qui s'expriment ouvertement. Ils restent minoritaires, mais leur nombre n'est pas négligeable et il est quand même grandissant. Alors, on le sait, on l'a déjà dit ici, Antoine-Marie l'a rappelé, le pape François crève l'écran. Il peut faire ce qu'il veut, les journalistes sont sous le charme. Certains disent en plaisantant qu'il ne parle pas, il tweete. Bref, son style pastoral s'adapte magnifiquement bien à la communication actuelle. Alors, est-ce que cette formidable popularité planétaire plaît à tout le monde au Vatican ? Eh bien, non. Et cela pour plusieurs raisons. Alors, je vais vous en faire les listes. Enfin, une liste qui n'est pas exhaustive, mais j'ai essayé de rassembler mes idées. Alors, en simplifiant, je dirais qu'il y a grosso modo trois courants de pensée parmi ceux qui n'aiment pas cette médiatisation. Ceux qui pensent qu'il n'est pas sincère, qu'il suit une stratégie de séduction de l'opinion publique, je n'exagère pas, ils le disent, pour ensuite pouvoir procéder à ses réformes sans être dérangé. Ceux qui pensent qu'il est spontané, mais qu'il ne se rend pas compte de l'impact dangereux de son style pastoral, qui pourrait semer la confusion et le trouble. Et puis ceux qui n'aiment pas le pape François tout court. Alors, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Bon, je développe les premiers. Donc les premiers mettent l'accent sur la contradiction, le décalage qu'il y aurait, qui existerait entre sa bonhomie affichée en public et son autoritarisme qui serait redoutable. Alors je vous raconte ce qu'on dit à Rome. Hein. Je n'ai pas d'expérience directe, personnelle. D'ailleurs, la Croix écrit aujourd'hui en une « Le pape tape du poing sur la table, il exige la démission du grand maître de l'ordre de Malte ». Donc ça, c'est quand même le pape autoritaire qui prend des décisions et parfois très sévères. Oui, le pape, en fait, ne se prive pas, vous le savez, vous l'avez entendu, de taper du poing sur la table. Au Vatican, beaucoup disent, à ceux qui veulent bien l'entendre, et donc aux journalistes comme moi, que François est autoritaire, sévère, intransigeant, que ses remontrances à la curie romaine, elles sont récurrentes, citées en exemple, le clergé qui se sent mal aimé, et puis les salariés du Vatican qui s'inquiètent, certains, pas tous, les fusions et regroupements des dicastères qui fomentent le mécontentement, ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, dit-on là aussi sur certains sites, ont peur d'être éloignés, ou pire encore, qu'on les isole en faisant le vide autour d'eux. Il y a des personnes qui sont restées à leur place, mais dont l'entourage a été totalement renouvelé. Pour appuyer cette théorie de la stratégie de la séduction, il cite l'étonnement de ceux qui l'ont connu à Buenos Aires et qui se souviennent d'un homme austère et rigoureux, bien loin de l'image actuelle du pape François que l'on a partout dans les médias. Alors, ces sentiments sont-ils dénués de tout fondement ? Je n'ai pas l'intention de répondre à cette question, à laquelle je serais incapable d'ailleurs de répondre. Mais peut-être, alors, peut-être qu'ils sont dénués de tout fondement, mais ils existent, c'est un fait. L'ambiance est peut-être lourde dans certains bureaux du Vatican, cela arrive, mais les médias n'en parlent pas ou peu. Alors du coup, l'emballement médiatique, l'engouement médiatique dont bénéficie ce pape agace certaines personnes, forcément. Et alors, le but de cette stratégie serait de, en quelque sorte, de court-circuiter le système pour faire passer des réformes qui ne plaisent pas à tout le monde. Et donc ça, c'était le premier groupe. On passe au deuxième. Le deuxième, ceux qui pensent que, bon, il est sincère, très bien, il est naturel, il est spontané, c'est lui, mais son style de communication fondé sur la spontanéité, la gestuelle, les interventions concises, risque, alors, d'une part, de créer la confusion, on l'a dit, chez les croyants. On ne sait plus ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Dans les paroisses, certains prêtres se plaignent. Ils disent qu'ils ont perdu leur autorité doctrinale. Et ils considèrent que c'est exactement ce qu'il ne faudrait pas faire dans une société post-chrétienne qui a perdu ses repères. Donc, risque que cette rapidité, cette spontanéité sème le trouble. Donc, qui suis-je pour juger? Et puis d'autres phrases qui ont fait le tour du monde. D'autre part, et c'est un autre point intéressant, ce style risque de favoriser l'image au détriment du fond. Alors, les gens ne retiendraient que le côté émotionnel, sensationnel, et risqueraient de passer à côté de l'essentiel. Je ne sais pas si c'est clair comme exposition. Donc, ce pape plaît aux foules, c'est un fait, elles viennent à sa rencontre. Il plaît aussi aux non-chrétiens, aux non-croyants, mais toujours selon ses détracteurs du deuxième groupe, les églises ne se remplissent pas pour autant. Donc ça voudrait dire qu'ils ont raison et que finalement, cette médiatisation ne sert pas la cause qu'elle devrait servir. Le troisième groupe, alors là, c'est encore plus chaud, puisque c'est ceux qui n'aiment pas le pape François et puis c'est tout. Alors ce matin, Christian Macarian, que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, a dit dans son exposé que le christianisme était actuellement traversé par un courant identitaire qui se crispe et un courant fraternisant qui ouvre les bras. Ça m'a frappé, puisque le pape fait résolument partie du deuxième courant, hein, le courant fraternisant qui ouvre les bras. Alors les premiers, ben, ils se sentent un peu lâchés. Les fidèles qui ont maintenu le cap contre vents et marées, ceux qui ont résisté malgré tout, qui se sont battus, qui sont descendus dans la rue parfois, eh ben on leur préfère les pécheurs, les paumés, les fragiles, mais ils ne sont pas contents. Donc ces gens-là se sentent un petit peu lâchés par ce pape dans des sociétés souvent où les chrétiens et les catholiques se sentent un peu minoritaires, isolés, et ils souhaiteraient que quelqu'un prenne leur défense. D'ailleurs, à Radio Vatican, nous recevions souvent des critiques concernant cet aspect. Radio Vatican a un style assez neutre. Nous ne sommes pas dans la papolatrie, ni dans la promotion du pape, ni dans la propagande. Et on nous reprochait justement cette discrétion en nous demandant d'être plus militants. Nous recevions des courriers importants, des courriels plutôt importants, nous reprochant cette neutralité. Vous aimez les musulmans autant que les catholiques, par exemple. Alors, François est surtout attaqué sur le thème de la famille. Ce n'est un secret pour personne. Les deux derniers synodes des évêques, que j'ai eu le privilège de suivre de l'intérieur, comme l'a rappelé Étienne, ont bien montré combien ce thème divisait. Bon, mais c'est vrai. Entre les tenants de la miséricorde, entre guillemets, je simplifie beaucoup, hein, et ceux de la doctrine. Alors, les synodes ont été effectivement très animés. Ça bougeait. Bon, c'est pas un mal en soi.
Mais par la volonté du pape François lui-même.
Absolument, qui avait encouragé les prises de parole libres. Et voilà, donc on voyait bien qu'il y avait des divisions. Il y a même eu une petite fronde, vous le savez, vous vous en souvenez, pendant le deuxième synode, je ne sais pas si petite d'ailleurs. Et la solution proposée par le pape François dans son exhortation à Maurice Laetitia a provoqué une levée de boucliers. En tous les cas, je vous parle de Rome, hein, je ne parle pas de la France. Vous avez tous entendu parler des doubias présentés par un groupe de cardinaux. Et comme le disait le père Lombardi hier, le discernement, le cas par cas qui a été souvent évoqué pendant les synodes et qui plaît au pape François et qui en soi séduit, effectivement, puisque chaque situation est différente. Nous, chrétiens, nous sommes très sensibles aux cas particuliers. Eh bien, ce cas par cas est très difficile à appliquer dans les situations concrètes, dans les paroisses. Donc, même les miséricordieux sont embêtés. Ils sont d'accord avec le pape sur le fond, mais ils se disent « mais comment est-ce que je vais faire ?» Donc ce pape bouscule et déstabilise. Mais il n'y a pas que la famille. Parmi les autres sujets de discorde, bon, j'ai retenu les chrétiens d'Orient. Alors certains disent, je l'ai entendu personnellement, sous prétexte de ménager l'islam, et c'est très bien, le pape finit par négliger les chrétiens d'Orient. Quand il est revenu de Lesbos avec des réfugiés musulmans, certains ont crié au scandale. Alors, des chrétiens se font tuer pour leur foi et on ramène à Rome des musulmans. Donc ça n'a pas beaucoup plu. Puis l'hommage rendu à Luther en Suède a suscité des critiques. Ces expressions ambivalentes qui risquent d'entretenir le relativisme que dénonçait Benoît XVI, son prédécesseur, le fameux relativisme. Et puis, il y a des sites un peu tradis qui répercutent et entretiennent ces polémiques. Il y en a de plus en plus, vous l'aurez remarqué. Mais on aurait tort de résumer tout cela à un affrontement entre progressistes et ultra-conservateurs. L'opposition au pape François est bien plus complexe, à mon avis. Elle est transversale, diversifiée. Et d'ailleurs, récemment, le pamphlet d'un journaliste italien, catholique progressiste et très estimé, a suscité beaucoup d'intérêt. Ce journaliste, Aldo Maria Valle, avait salué avec enthousiasme l'élection du pape François après les heures sombres de la fin du pontificat de Benoît XVI. Eh bien, il a changé d'avis. Et donc, maintenant, il s'est rangé du côté des opposants au pape François. Et je terminerai sur un sujet qui intéresse peu le grand public, mais qui me tient à cœur et qui rejoint votre sensibilité à tous, la réforme des médias du Vatican, qui suscite quand même un malaise. Alors, les gens n'en veulent pas au pape directement, mais la grogne monte. Avec la centralisation des médias du Vatican au sein d'un dicastère de la curie romaine, ce n'était pas le cas dans le passé. Et donc on a peur que l'information devienne plus institutionnelle, unitaire, moins universelle, et que l'on se concentre uniquement sur la personne du pape. Alors c'est une dérive regrettable, et surtout ce serait un paradoxe si cela s'avérait sous un pontificat très médiatique, comme on l'a dit. Voilà le petit exposé que j'ai pu préparer après le repas de midi.
Merci Romilda. Vous aurez peut-être des questions tout à l'heure. Je passe la parole à Jean-Louis. Je voyais dans la présentation que les vaticanistes ont traîné des jours et des jours sous les colonnades du Bernin. Donc, je ne sais pas si c'était ton cas, peut-être des jours et des jours dans la salle de presse du Saint-Siège. Et peut-être un regard du coup de médias non confessionnels sur le pape François, c'est quelque chose d'essentiel de savoir comment tu as vécu cette expérience.
Exactement. Donc moi, en tant que correspondant de l'agence France-Presse, il faut bien voir que mon rôle était de rendre compte à un média grand public, non confessionnel, d'une information qui les intéresse par intermittence. Moi, en tant que croyant, j'essayais d'aller au-delà de leur intérêt, de susciter leur intérêt, mais ce n'était pas toujours facile. Donc c'était un marchandage de tous les jours pendant 5 ans, mais tout de même passionnant. Et je dois dire que quand on présente bien les choses, on arrive auprès des rédactions en France à susciter un intérêt sur des sujets sur lesquels l'intérêt n'est pas évident au départ. Voilà, alors je vais présenter mon idée de la communication du pape François et du Vatican. Donc il faut rappeler les congrégations générales, un discours fondamental de Bergoglio qui a parlé de l'Église en mission et qui a dit qu'il faut faire...
Avant le conclave. Hein.
Comment ?
Avant le conclave.
Avant le conclave, voilà.
Pour préparer le conclave.
Pour préparer le conclave. Et ce discours a sans doute joué un rôle très important ensuite dans son succès. Il a parlé de l'Église en mission et l'idée de ne pas laisser enfermer le Christ, de le faire entrer et sortir. Donc cette communication, on est dans l'idée de communication. Cela venait à une période, l'ont dit Antoine et Romilda, une période tout de même très, très pénible et triste pour le Vatican, avec beaucoup de scandales, les accusations de culture du secret qui... pesait sur le Vatican, beaucoup de fantasmes des grands médias. Une période où de plus en plus l'indifférence et la méconnaissance du grand public vis-à-vis du religieux se manifestaient. Et aussi une période où la révolution numérique était en train de bouleverser le monde de la communication. Donc il s'agissait pour l'Église de comment rejoindre le troupeau, enfin la plus grande partie de l'humanité, comment la rejoindre? Donc, il y avait un effort qui avait été fait déjà avant, avec le Conseil des communications sociales, le Conseil de la culture. C'est Benoît XVI qui, en décembre 2014, a commencé à tweeter sur le réseau Twitter. Donc, c'est lui qui a engagé ce processus, conscient de cette nécessité pour l'Église d'apporter une parole belle et saine et sainte sur les réseaux sociaux. Alors, à l'évidence, François, une de ses grandes contributions est d'avoir rapproché la parole du peuple. Il l'a rapprochée de manière extrêmement variée. Tous les sujets sont expliqués. parfois pour la première fois, avec des formules choc, mais pas forcément des formules qui veulent choquer, mais des formules imagées. Et il essaye sans arrêt de parler aux autres. Ça lui est reproché, d'ailleurs. C'est ainsi qu'à Anne Hidalgo, la maire de Paris, il va lui envoyer un message pour la remercier de l'accueil aux réfugiés en parlant des ondes positives. Alors, dans une certaine catosphère, ça fera un certain buzz. Mais voilà. Donc, moi, mon rôle donc à la salle de presse, où j'allais tous les jours, où j'ai traîné effectivement pas mal de temps. Certains jours, il y avait peu de monde, une dizaine de personnes, d'autres fois, des centaines. J'ai toujours essayé de ne pas renoncer à véhiculer dans mes dépêches le message spirituel qui est derrière tout, en fait. Et ça, c'est très difficile. Pour Noël, pour Pâques, pour les grands discours, l'année de la miséricorde, comment expliquer au grand public, moi, quand le pape a annoncé cette initiative, mon collègue au bureau m'a dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire, la miséricorde? Mais on va pas faire d'urgent avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Voilà. C'est complètement inconnu. Donc, voilà. Alors, qui fait la communication au Vatican? C'est, comme vous l'avez dit tous les deux, à l'évidence, d'abord le pape. En fait, le pape, après avoir refusé de parler aux médias, parle beaucoup. Et il est inquiet d'une mauvaise communication. C'est un homme inquiet. Donc, sans arrêt, il dit, et j'ai pas mal de citations à ce propos, « Ne me faites pas dire. » Par exemple, au retour d'un voyage récent, on parle de la question de l'homosexualité, des transsexuels, et il part dans un long développement. Et il y a un moment, il dit, à propos d'un transsexuel qu'il avait reçu au Vatican, il dit « S'il vous plaît, n'écrivez pas que le pape va sanctifier les trans. Je vois d'ici les coupures des journaux. » Et ensuite, il ajoute, ce qu'il ajoute toujours, « C'est un problème humain. Quelle serait la réponse de Jésus ?» etc. Voilà, c'est son approche. De même, un autre souvenir qui me revient, qui était très, très frappant, on allait au Mexique et on s'est arrêté à La Havane, où le pape a rencontré le patriarche Kirill. Et on était à peine remonté dans l'avion lors de ce voyage épuisant que François arrive et il dit « Attention, attention, la déclaration commune que je viens de signer à La Havane, ne la surinterprétez pas, faites attention, ce n'est pas politique. » Et visiblement, il était très inquiet. Il se rendait compte que cette déclaration avait beaucoup d'implications, que la part de l'orthodoxie était très importante dans sa rédaction, etc. Donc, c'est un pape inquiet. Et on sent que, d'une certaine manière, plus il parle, plus il a besoin de recadrer. Et donc, c'est un peu à l'opposé de ce qui se passait à l'époque de Benoît XVI, où les pannes de communication, ou le silence, alimentaient finalement les polémiques et les fausses analyses. Donc il veut absolument éviter cela. Alors, à la salle de presse, hors le pape, qui communique? Donc, bien sûr, le père Lombardi et toute l'équipe communiquent très régulièrement. Ensuite, pour rencontrer des gens importants au Vatican, c'est toute une affaire. Et notamment la secrétaire d'État, le ministère des Affaires étrangères. Le dernier jour de mes 5 ans à Rome, j'ai pu interviewer Mgr Gallagher. Mais j'ai dû faire relire mon texte, il a coupé des mots qui étaient un peu saillants, etc. Donc, effectivement, il y a une grande, surtout dans le domaine diplomatique, une grande méfiance vis-à-vis des médias. Alors sinon, qu'est-ce qu'on a comme information? On a certains prêtres ou prélats frustrés qui se livrent dans des cafés l'après-midi. Voilà. On a les cardinaux à la retraite, qui ont besoin de parler parce qu'ils sont seuls dans leur appartement immense et ils ont besoin d'être raccordés à leur passé. Je le dis en toute bienveillance parce que j'ai été extrêmement bien reçu par eux. Notamment, je rends hommage au cardinal Etchegaray, c'était extraordinaire. Donc, il y avait une autre communication assez étonnante, enfin étonnante pour certains, oui, c'est l'Université de la Sainte-Croix, l'Opus Dei, qui organisait beaucoup de choses pour les journalistes, dont des petits déjeuners de presse en off avec des responsables. Et c'était les seuls à faire ça dans cette immense curie, cet immense système. Donc voilà. Sinon, le fait qu'il y ait peu de communication, ça encourage les fuites automatiquement, les fuites organisées. Ainsi, avant le synode pour la famille, cette lettre de 12 cardinaux, elle a bien fuité par les médias. C'était une volonté délibérée. Alors il y a des sujets sur lesquels on se heurte à une certaine peur, une angoisse du Vatican. On sent très bien tous les sujets relatifs aux mœurs. Enfin, voilà. Et notamment, bon, on a vu pour nous cette affaire très délicate de ce candidat ambassadeur, Stefanini, vous savez. Donc effectivement, c'était très difficile d'avoir une réponse claire du Vatican. Ils avaient peur des surinterprétations des médias qui ne manqueraient pas de venir automatiquement. Voilà. Alors, ensuite, ce qui était très important à la salle de presse, c'est l'interprétation, c'est la discussion. La salle de presse, avec ses habitués, c'était un lieu de discussion et d'épluchage mot par mot de certaines déclarations. Et donc, c'est ainsi que la note de bas de page de Amaurice Laetitia sur les divorcés et remariés a été épluchée dans de longues discussions. Et on voyait bien qu'à la salle de presse aussi, ce pape divise profondément. Alors, il y avait les enthousiastes, ceux qui trouvaient qu'il faisait tout extrêmement bien, qui le voyaient comme plus progressiste qu'il n'était aussi. Et puis, il y avait les ronchons, les Besserwisser, comme on dit en allemand, ceux qui pensent savoir mieux que le pape et mieux que le Vatican ce qu'il faut penser. Et donc, c'était très intéressant de voir ça, parce que, effectivement, les enjeux sont très forts. Alors, un autre point que je voulais souligner, c'est ce que souhaitait communiquer le Vatican et ce qu'il ne réussissait pas forcément à communiquer. En fait, il y avait des grandes conférences de presse organisées avec trois cardinaux qui parlaient pendant une heure et demie, qui lisaient des textes préparés à l'avance, parce qu'en fait, leur but, c'est que le message intégral de l'Église soit répercuté, que les belles initiatives soient répercutées. On peut citer, par exemple, tous les efforts du cardinal Ravasi, qui est un homme remarquable, pour le parvis des gentils, ses rencontres avec les athées, les agnostiques. Mais au bout d'un certain temps, ces bonnes nouvelles, ces belles initiatives n'intéressaient pas la presse. Et c'était un peu décourageant, je pense, pour eux. De même que ces conférences de presse étaient souvent décourageantes pour nous. Voilà. Donc, la réponse des grands médias, c'est... Souvent, la culture religieuse manque dans beaucoup de grands médias, où elle est carrément absente de temps en temps, et ils cherchent le plus concret. Alors ils ont certaines images du Vatican, de l'Église, des sujets, des mots-clés, et ça fonctionne comme ça. Alors il y a d'abord, bon, certes il y a les grandes décisions internationales, alors l'affaire de Cuba, etc., tout ça a été très médiatisé. Mais sinon, ça marche par mots-clés, comme on appuie sur un bouton, alors Trump, gay, avortement, alors ça, on est sûr que automatiquement ça fonctionne. Voilà, les scandales, les affaires de sexualité, les affaires financières, les questions de laïcité et d'identité, et bien sûr la grande question qui a assombri le climat de l'Église pendant les 10 dernières années, la pédophilie, qui est une question bien sûr essentielle. Mais le reste ne marche pas souvent. Le reste ne fonctionne pas. Même si je peux trouver très intéressant telle déclaration, à part quand c'est Noël et Pâques, ça ne fonctionne pas. C'est ainsi que, par exemple, on peut donner un grand exemple qui était l'année de la vie consacrée l'an dernier, Et moi, j'avais proposé des sujets là-dessus, et ma rédaction m'a dit, mais qui ça intéresse? Qu'est-ce que c'est la vie consacrée, etc. Voilà.
Merci Jean-Louis. Peut-être on va donner un petit temps de questions à ceux qui veulent vous interroger tous les trois. Christophe a le micro.
N'hésitez pas. Je fais circuler le micro, simplement vous dire qu'à 18h30, très précise, vous mettez en route,
8 minutes.
Ceux qui veulent assister à l'Eucharistie, vous pouvez vous mettre en route à 18h30, très précise. Donc on arrêtera.
Oui, Xavier Accard, prier. Je voulais demander à Romilda Ferrotto, elle a évoqué là ce journaliste italien, catholique, progressiste, qui avait reviré d'opinion par rapport au pape. Pourquoi ? Quelle est son argumentation ? Pourquoi il a changé d'avis sur le pape ?
Alors, pour résumer son argumentation, je devrais rester ici jusqu'à 19h, donc ce n'est pas possible, puisqu'il y a une
autre. Non, ce n'est pas possible.
Parce qu'en fait, c'est très articulé. Il reprend point par point une série de déclarations. C'est très sérieux comme travail. Une série de déclarations du pape François. Et il montre certaines contradictions, certaines imprécisions dans l'énoncé de ses pensées. Et surtout, il pense que, en fait, justement, à force de communiquer de manière très simple, il a fini par détourner l'attention des personnes du vrai message. Et que, alors qu'il pensait que cela allait rendre service à l'Église, finalement, cela sème le trouble dans l'Église et le doute parmi les fidèles. Donc c'est essentiellement cet aspect-là. Ce qui l'inquiète, c'est l'impact sur les fidèles, parce qu'il estime qu'en fait, il y a beaucoup de confusion dans ce style du pape François, puisque moi, je commentais vraiment son style médiatique dans le fait que, justement, il répond aux questions de journalistes, de la presse généraliste. On lui pose des questions, il répond de manière assez spontanée. Et puis après, en fait, il y a des contradictions entre certaines interviews. Voilà.
Martin Ferron, RCF. J'ai deux questions. Vous avez une minute chacun. Antoine-Marie, tu as la particularité d'avoir changé de poste. Un premier poste à Rome où tu es chargé de faire passer une information pour les médias en général, du moins ceux qui sont abonnés aux médias. Tu es passé à Famille Chrétienne. Est-ce que ton regard a changé sur ce pape et la manière dont tu en parles et dont tu travailles avec tes journalistes sur ce sujet-là, sur cette relation d'admiration, d'intéressement, de travail, de curiosité? Est-ce que ça change? Et puis Romilda, le titre, c'est « La communication d'un pape ». Le père Lombardi nous a parlé de la transformation de la communication autour de la maladie du pape Jean-Paul II. Il nous a parlé du travail aussi de la communication autour de Benoît XVI, qui n'était pas le plus grand communicant du monde, a priori. Aujourd'hui, je m'interroge sur est-ce que la communication est complètement débordée et cherche des pistes, et pour combien de temps? Parce que le pape lui dit lui-même, moi je suis là pour 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après, basta, comme il dit. Est-ce qu'on prépare déjà la suite? Et avec quel produit marketing, quel pape et quelle structure sera là pour communiquer sur le pape?
Autrement dit, si vous avez le nom du futur pape.
Ouais. En bref, alors, merci Martin. Je ne sais pas si je serai très, très, très clair, mais là, ce qui est sûr, c'est que j'ai la conviction. D'abord, moi, je me décante un peu. C'est-à-dire, je lis beaucoup moins d'infos sur le Vatican en ce moment, pour être très franc, et j'essaie de découvrir le pays qui est le mien et que j'avais quitté il y a 20 ans, et c'est pas banal. Plus sérieusement, j'ai l'impression que, et ça, je tire ça, c'est assez étonnant. Il se trouve que le poste qui est le mien à Famille Chrétienne aujourd'hui, j'occupe le poste de mon successeur à Imedia, et à Imedia, tu vois ce que je veux dire, mon successeur est aussi mon prédécesseur. Et on a eu un échange avec Emeric il y a quelques jours, que je peux livrer ici. Il m'a dit cette chose que je trouve très vraie, ce pape gagne à être connu de près. Au-delà des médias, de ce qu'on peut entendre des médias. Et je crois que c'est très vrai, et j'essaie de dire ça en rédaction à Famille Chrétienne. Donc il n'y a pas de vrai changement. Je crois que j'ai ce privilège d'avoir été près du pape François avec ses, j'ose dire ses ambiguïtés, mais enfin, c'est ce que tu as dit tout à l'heure quand tu parlais d'Aldo Maria Valle. Et en même temps, c'est une richesse extraordinaire. Voilà. Et je continue de penser que à travers les médias, beaucoup de gens étaient bernés un peu en pensant que Benoît XVI était une espèce de cardinal insensible, de pape insensible, un panzer cardinal, et que François était un type charismatique, fantastiquement sympathique. Et je pense exactement le contraire. Mais je pense, parce que François est un type autoritaire, est un saint-père, un homme assez autoritaire, assez sec, mais que c'est une vraie chance pour l'Église. Et je le dis et je le redirai encore dans un moment. Mais en revanche, je pense que les gens ignorent la tendresse qui était celle et qui est toujours celle de Benoît XVI. Mais comme pour beaucoup, on ne peut pas faire le deuil d'un homme qui n'est pas mort, et je suis loin de souhaiter la mort du pape émérite, je comprends qu'il y a aussi des tensions encore aujourd'hui, et dans la curie aussi, quand Benoît XVI est encore là, tout près, et qu'on y est très attaché aussi. Voilà.
Oui, je rebondis juste... Par rapport à ce que vient de dire Antoine-Marie, effectivement, je pense que la présence d'un pape émérite entretient ce genre de clivage au sein de la curie. Effectivement, il est vivant, il est là. Bon, il a beau être très discret, il est là. Et donc, je suis d'accord avec Antoine-Marie dans cette analyse. Pour répondre à ta question, Martin, la communication vaticane est débordée. Et pas seulement la communication vaticane, y compris les vaticanistes. Certains vaticanistes italiens en veulent au pape tout simplement parce qu'il a bousculé leurs habitudes. La communication vaticane avait des rouages très bien huilés, qui fonctionnaient avec des automatismes un petit peu poussiéreux, même beaucoup, mais il y avait des habitudes, y compris chez les vaticanistes qui fréquentaient la salle de presse. Bah, le pape François a bousculé tout ça. Donc automatiquement, la communication se fait dans le désordre. Et ça ajoute un petit peu à la confusion, effectivement, parce que souvent, on ne sait pas exactement ce qu'il a dit. Il a improvisé, donc il faut tout de suite prendre note, il faut traduire les textes qu'il avait préparés à l'avance. Il ne les lit pas. Quand on commente une messe en direct, c'est dramatique. Voilà. Et donc ça vaut surtout pour la communication vaticane, mais aussi pour les autres. Même si la communication vaticane bénéficie quand même de l'engouement médiatique que suscite le pape François, parce qu'elle est au centre de l'attention, et donc évidemment, ça motive de se dire qu'on est au service d'un pape qui plaît. En ce qui concerne l'avenir, non, la communication vaticane, à ma connaissance, ne s'organise pas pour le prochain pape. Ça ne se fait pas chez nous. On ne prend pas d'avance. Généralement, on vit au jour le jour. On suit... la marche du temps. Et donc, personne ne sait quel sera le profil du prochain pape, personne sur Terre. Mais elle se prépare, enfin, elle essaye de faire face aux nouveaux défis technologiques, aux nouveaux médias. Et bon, j'ai fait allusion à cette réforme tout à l'heure, à la fin de mon exposé. Elle essaye de faire face aux nouvelles exigences, dont la présence sur les réseaux sociaux. Mais bon, c'est pas une préparation.
Pour tenir l'horaire, je voudrais juste un très bref mot et en un mot, une conclusion de chacun sur la question suivante et en rebondissant sur ce que tu disais, Romilda. Les vaticanistes sont débordés ou déroutés. La communication du Vatican peut être dans une certaine mesure débordée. Comment ne pas seulement contribuer à l'emballement médiatique qui aveugle et qui peut aussi nous aveugler et être attentif au contenu? Juste vraiment un tout petit mot, une petite phrase sur votre expérience personnelle pour justement garder une attention au contenu essentiel de ce que veut transmettre le pape François.
C'est bien pour ça que j'ai voulu axer mon intervention sur la médiatisation du pape François, parce que j'estime que le problème, c'est la médiatisation du pape François. Alors lui, il favorise ces simplifications. Mais en fait, comment faire ? Eh ben, en approfondissant ce qu'il dit, en allant vraiment étudier ce qu'il dit. Et pas simplement les images, les gestes, la petite valise, la petite mallette. Non, il faut aller au-delà. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup plus de travail. Et donc, c'est comme ça qu'on peut rendre service.
Jean-Louis.
Oui, il y a une œuvre considérable de propos... C'est une somme considérable qui sera à étudier plus tard, notamment dans les homélies de Sainte-Marthe le matin, que le pape fait à braccio, c'est-à-dire sans notes, où il commente tous les textes du jour, et qui sont d'une richesse incroyable, et qui d'ailleurs souvent retraduisent dans un langage populaire, simple, compréhensible de tous les jours, les pensées de ses prédécesseurs, notamment de Benoît XVI. Et donc, le problème, c'est de, effectivement, je me heurte au même problème. Il y a une médiatisation sur le pape autour de certains sujets. Et donc, mais toute la puissance de son message pour le monde, enfin, c'est ce message extrêmement puissant pour la fraternité, pour la solidarité avec les plus faibles, etc., souvent passe au second rang, alors qu'il est extrêmement riche. Et parfois, j'ai été extrêmement touché par certains de ces longs prêches.
Et puis enfin, je viens de le dire à l'instant, c'est-à-dire de mieux connaître, et Romilda vient de le dire aussi, mieux connaître ce qu'est le pape François, ce qu'il fait vraiment, et mieux le travailler, l'analyser. Et une fois de plus, j'en ai parlé aussi sur la question de la parole, du statut de la parole du pape, de bien évaluer dans quel contexte telle ou telle parole ou tel geste a été posé. Ça me paraît essentiel pour nous, d'abord les journalistes, pour transmettre au monde, et puis prendre conscience enfin de son souci pastoral d'abord de parler au monde, et donc accepter, c'est peut-être pas simple pour nous catholiques, accepter que le pape des périphéries parle d'abord aux périphéries.
Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Je rappelle juste l'horaire, donc 18h30, eh bien, mettons-nous en route pour l'église Saint-François de Sales. Comme il fera froid, on rentrera bien vite pour le dîner à 20h, 21h45. Les dossiers de l'écran, pédophilie et église, comment en parler, avec des extraits du film Spotlight. Merci à vous tous. Au rez-de-chaussée,